Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Laurence Montel afin de présenter son livre « Marseille, capitale du crime, histoire croisée de la criminalité organisée et de l'imaginaire de Marseille ». Ce livre est publié chez les éditions Champvallon au mois d'août 2024. Bonjour Laurence Montel. Laurence Montel, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Poitiers. Vous êtes membre titulaire du Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie, qui est le CRIAM, et vos thématiques de recherche sont l'histoire des villes et des ports, l'histoire de Marseille, les imaginaires criminels et corruption politique au XIXe et XXe siècle. Votre thèse, soutenue le 3 décembre 2008, a reçu la mention très honorable, les félicitations du jury à l'unanimité et l'accord pour la publication en l'état, ainsi que l'engagement de publication chez Champvallon. Vous avez également reçu le prix de la chancellerie des universités de Paris, le prix Schneider, en 2009. Laurence Montel, pourquoi ce livre est publié maintenant, alors que vous avez reçu l'engagement de publication chez Champvallon en 2008.
Vous avez cité au tout début de cette intervention le titre de ma thèse, qui n'est pas exactement le même que le titre du livre, mais ça me permet de rebondir sur le fait que je faisais vraiment cette histoire croisée de la criminalité organisée et de l'image de Marseille, mais au fond, dans la thèse, j'avais un peu l'impression que je faisais des histoires parallèles. J'avais du mal à croiser les deux. Et dans les années qui ont suivi, je me suis beaucoup intéressée à la façon dont on pouvait réellement faire se rencontrer ces deux histoires, trouver les points où se nouaient finalement les transformations de l'économie criminelle et les transformations de l'image de Marseille. À quel moment on pouvait percevoir que ces transformations de l'économie criminelle telles qu'on les localisait finalement, entre autres à Marseille, avait un impact sur l'image de la ville. Et donc, j'ai travaillé sur ces points, et notamment sur cette question aussi de l'histoire de la corruption, qui était très émergente en ce moment-là. Il y avait beaucoup d'ébullition dans ce secteur de la recherche. Et ce sont ces éléments-là qui m'ont permis d'aboutir au livre tel qu'il est sorti finalement, et qui est assez un peu différent, je dirais quand même, de la thèse.
Ok. Marseille capitale, avant que ce soit Marseille capitale du crime, c'est à Marseille que le premier café a été créé. C'est à Marseille qui est arrivé le premier café avant de se répandre en France. C'est pour ça qu'il y avait à Marseille, dans tous les coins de rue de la Canebière, il y avait ce que l'on appelait à l'époque des grands cafés, qui étaient extrêmement bien décorés, qui depuis ont été transformés et soit ont été rachetés par des fast-food ou des banques. Mais il reste encore quelques établissements avec ces très, très belles décorations de l'époque. Alors Marseille, c'est aussi au cœur des routes de la soie et des épices. Mais Marseille, c'est aussi capitale européenne et euroméditerranéenne, capitale européenne du sport, capitale européenne de la culture, capitale du rap, capitale de la voile, capitale de la mer, capitale mondiale de la biodiversité, capitale européenne de l'innovation.
Oui.
Non, Marseille, c'est vraiment une capitale. Alors, vous avez intitulé le premier paragraphe de votre introduction « Des narcomicides à la narcocité ».
Oui.
C'est quoi les narcomicides? D'où viennent ces appellations?
Alors, depuis je dirais au moins quelques mois, un peu plus. Cette expression est apparue dans le vocabulaire médiatique et oui, c'est apparu dans la sphère publique des médias pour désigner les crimes qui sont connus commis dans les milieux des trafics de drogue et qu'auparavant on appelait des règlements de compte.
Règlement de compte, c'est ça.
Voilà. Et maintenant, on a tendance à les appeler narcomicides pour mettre en rapport avec vraiment ce contexte du trafic de drogue. Ça permet de dire deux en un, et ça permet de dire la violence liée au trafic de drogue en choisissant un terme qui comment on pourrait dire, qui fait mouche auprès de l'opinion, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est un peu pour alerter l'opinion. De la dangerosité de la situation. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense qu'on emploie ces termes-là. Et moi, je suis très frappée de voir, j'ai pas travaillé sur cette question, parce que d'abord, comme je suis historienne, je travaille plutôt sur le 19e siècle, le premier 20e, voire peut-être plus largement, j'ai un tout petit peu écrit aussi sur la deuxième moitié du 20e siècle, mais moins sur les tendances très contemporaines. Et aujourd'hui, dans cette perception de la criminalité organisée et de cette criminalité organisée perçue comme violente, il y a une grille de l'imaginaire qui amène vers l'Amérique latine. Et on l'a vu très très récemment, ces jours derniers, quand on a vu un ministre de l'Intérieur dire qu'on était en pleine mexicanisation de la France.
C'est le même qui parle de narcotrafiquants, de narco-racailles.
Alors, narco-racaille, oui. Alors ça, c'est encore un néologisme, je crois, on dit, hein, nouveau, hein, je ne l'avais jamais vu. Mais oui, effectivement, c'est une façon d'inventer des nouveaux mots. Là encore, je pense qu'il faudrait peut-être aller en parler avec des spécialistes du langage et avec des sociologues pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, quelle est l'intention politique qui est derrière cette requalification des faits? C'est-à-dire, est-ce que réellement, là, on est dans quelque chose de totalement nouveau, et c'est ce que le procureur de la République de Marseille avait dit il n'y a pas si longtemps, hein, qu'on était dans quelque chose de complètement nouveau, de complètement beaucoup plus violent qu'avant, avec un rajeunissement des acteurs, et donc un danger à la fois pour la société et pour la jeunesse. Hein, double danger. Et pour l'avenir, parce que qui dit jeunes de 15-16 ans aujourd'hui qui s'affrontent et se tuent dans les rues, ou bien qui sont victimes ou qui sont auteurs de violences très graves, quel avenir ça nous prépare? Et donc je pense qu'il y a une volonté d'aller de vraiment sensibiliser à ces questions, mais peut-être aussi de sensibiliser en effrayant. Parce que, bon, après ça va être mon interprétation personnelle, hein. Je pense que c'est aussi une façon, d'appeler tout de suite derrière à un renforcement, de la répression. Hein, c'est un discours, du tout répressif, je pense, hein, qui est porté par, ce système de représentation.
Il y a la double volonté, me semble-t-il, d'effrayer et aussi de culpabiliser. C'est le même ministre qui parle de sang attaché à la consommation de drogue.
Alors oui, voilà, exactement. Ouais. Il y a aussi la volonté de prendre le sujet sur un plan moral et ouais, vous avez raison. Je suis d'accord. Il y a aussi ça derrière. Après, je ne sais pas si dans l'usage de cette image de l'Amérique latine, il y a véritablement la volonté de le prendre sous l'angle de, enfin, comment dire, de J'ai du mal à vous répondre là. Mais
De la culpabilisation, mais
voilà, de
après.
culpabiliser. Mais par contre, oui, que ça soit pour faire peur, et pour dire encore une fois que c'est étonnant, c'est toujours l'étranger. On va toujours chercher des images qui font peur à l'étranger. Et quand on fait ça, est-ce que vraiment on regarde de près ce qui se passe concrètement sur le terrain? La situation concrète des rapports sociaux, des rapports de domination, je sais pas, du tissu économique local, de l'insertion de cette jeunesse. Moi, je suis pas sûre qu'on puisse ça soit une manière, en tout cas, d'aller sur ce terrain-là. qui est un terrain sur lequel il faut aussi aller, en fait. Ben, je ne veux pas dire qu'il n'y a que ce terrain-là. On sait très bien que la prévention, ça n'a pas de la même efficacité immédiate quand il y a un gros problème d'ordre public que ben, de rétablir l'ordre. Il faut bien rétablir l'ordre. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas. Mais je pense que c'est dommage de manquer ce qui. Enfin, de ne pas tenir les deux ensemble, en fait.
La prévention, c'est comme l'éducation. On n'obtient pas des résultats immédiats.
Voilà.
C'est pas parce qu'on éduque bien des gamins à l'école maternelle ou à l'école communale qu'on va avoir immédiatement des ingénieurs. Il va
C'est
falloir
ça.
quelques années ou des médecins. Il va falloir
Ah.
quelques années de formation complémentaire.
C'est
Donc,
ça.
à propos de la délinquance, de la sécurité ou de l'insécurité, ben, il y a besoin aussi de reformer les esprits.
Il y a besoin.
Et vous évoquez la délinquance en Amérique du Sud. En fait, de ce qui me semble, ce sont les nervis marseillais qui s'échappaient, qui avaient créé les premiers bordels, donc les premiers lieux de prostitution, avant qu'ils transforment ces activités délinquantes en trafic de drogue.
Alors, les bordels à Marseille. Alors, on parle de Marseille là. Ouais.
Oui, mais et l'exportation des bordels en Argentine, par exemple.
En Argentine aussi. Ouais. Alors ça, c'est
Parce
vrai
que
que vous mettez
la
le doigt sur.
particularité en Argentine, c'est qu'il y avait pour l'essentiel des hommes qui travaillaient dans les fermes. C'est comme ça qu'est né le tango, c'était des fermiers qui dansaient ensemble. Et donc, parce qu'il manquait de femmes, et que les Marseillais avaient l'habitude d'organiser, enfin, avaient la compétence, si on peut dire, d'organiser des bordels, donc on fait de l'importation de prostituées en Argentine.
Oui, alors c'est vrai que le sujet, il est très. Il y a de multiples choses là dans tout ce qu'on est en train de dire. D'abord, le système des bordels, c'est-à-dire des maisons de tolérance, il existait avant l'Énervie.
Oui.
Avant l'Énervie de la fin du siècle, parce qu'en France, on est un pays réglementariste, où on préfère avoir des maisons de tolérance, on va dire, qui sont encadrées par une réglementation locale. Pour pouvoir s'assurer que les prostituées ont un suivi médical, parce que tant qu'on ne sait pas soigner des maladies comme la syphilis ou quoi, on a très peur de l'épidémie. Et donc, on préfère suivre les prostituées médicalement et les soumettre à des visites régulières et donc les encadrer dans un système très contraignant où elles ne sont pas libres de leurs mouvements et de leurs passes. Et donc, elles sont en plus enfermées dans des maisons où elles ne divaguent pas dans l'espace public et on les voit pas. Donc moralement, et là on en revient à toujours cette importance de la morale dans tous ces sujets, hein. Moralement, du coup, on préserve une forme de morale, en tout cas publique, pour bien les contrôler. Donc ces bordels existaient au 19e siècle, ils étaient bien réglementés, ils existaient au siècle du reste d'avant. Et ce qu'on observe, c'est vrai, à la fin du 19e siècle, c'est qu'on voit de manière beaucoup plus claire que des bandes de jeunes hommes qui, je dis bande, mais on pourrait dire réseau, hein, parce que le mot bande, c'est pareil, il est tout de suite stigmatisant. Hein. Sauf qu'on peut dire aussi bande de copains, vous voyez, et je pense qu'il y en a une bonne partie. C'était des jeunes qui étaient allés à l'école ensemble, qui se connaissaient parce qu'ils travaillaient, ils avaient travaillé, travailloté dans des ateliers du quartier. Ils habitaient beaucoup autour de la Joliette, du quartier Saint-Jean, et il y avait cette manne de la prostitution. Et un certain nombre, on voit bien qu'ils essaient, dans les années 1900, de prendre le contrôle de ce secteur économique qui rapporte énormément, en fait, de la même façon qu'ils essaient de prendre aussi le contrôle des tripots, en fait, des maisons de jeu, voilà, qui profitent, en fait, un peu dans les années 1900 de la nouvelle loi sur les associations, en fait, qui favorise la création de ce type d'établissement. Mais qui favorise en fait évidemment pas la création de maisons de jeu parce que ça c'est interdit, mais enfin sous couvert de cercles, on va faire des maisons de jeu ouvertes un peu aux tout venants et sous couvert de les protéger, hein, comme on sait très bien comment ça peut fonctionner, eh bien engranger comme ça des revenus réguliers, puisque le problème évidemment pour les quand vous avez une activité qui est une activité illégale. Un des problèmes quand même, c'est d'arriver à avoir des revenus un peu réguliers. Et ça, évidemment, ce sont des secteurs qui permettent cela, puisqu'ils fonctionnent avec une clientèle intéressée par le jeu et intéressée par la prostitution. Et alors, d'autre part, avec les grandes circulations internationales, la mondialisation un peu du marché du travail à la fin du 19e siècle et les grandes migrations, ce grand courant migratoire vers l'Amérique et surtout l'Amérique latine, beaucoup d'hommes qui partent travailler justement en Argentine ou dans d'autres pays de l'Amérique latine, il y a un besoin. C'est vrai en prostituée, puisqu'il y a finalement d'abord beaucoup d'hommes qui émigrent et donc pas suffisamment, je dirais, de femmes disponibles. Et donc un
Oui, je ne
certain nombre
m'immigre
de
pas en
femmes,
couple.
voilà, migrent pas en couple, beaucoup de travailleurs jeunes, hein, beaucoup de femmes vont partir travailler dans le secteur de la prostitution dans ces pays qui sont en pleine, on va dire, croissance économique en fait. Et une partie de ces souteneurs marseillais vont, mais ils ne sont pas les seuls, les souteneurs d'ailleurs, mais une partie en fait des hommes vont se rendre compte que là, il y a aussi de l'argent à se faire, aussi des richesses à accumuler, en allant d'abord accompagner des prostituées, en faisant l'accompagnement de ces migrations, en mettant en rapport ces femmes immigrantes avec des trafiquants qui sont installés là-bas, et pour beaucoup en s'installant là-bas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souteneurs de trafiquants de femmes, notamment marseillais et notamment parmi eux Corse pour une partie, qui vont aller faire fortune là-bas. Et une des facilités qu'ils ont, c'est vrai, c'est la présence à Marseille, hein, du port, qui favorise ces circulations, qui est Marseille, c'est un lieu de transit en fait. Donc évidemment, c'est un outil vraiment intéressant, et aussi le fait qu'ils ont des réseaux. Ils ont des réseaux dans les compagnies de navigation. Eux-mêmes, ils ont été pour partie navigateurs, et donc ils connaissent un peu ce secteur et ils vont contribuer là-bas à le développer.
Comparé à de grandes villes comme New York, Boston, Chicago, aux États-Unis, Glasgow au Royaume-Uni, Montréal au Canada, Naples en Italie, Marseille bat-elle des records en matière d'homicides liés au trafic de drogue?
Au trafic de drogue, vous dites?
Trafic de drogue, oui.
Aujourd'hui,
Oui.
c'est ça?
Oui.
Oui, oui, effectivement, je n'ai pas vu les statistiques personnellement, donc, mais effectivement, il y a une violence qu'on voit bien, hein, qui est bien présentée dans les médias, en tout cas, comme étant une violence importante. Et bon, moi, en tant qu'historienne, ce qui m'intéresse, hein, c'est de regarder dans le passé. À quand remonte cette violence dans les mondes criminels? Et je l'ai fait en regardant les archives judiciaires. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir que on n'a pas tellement dans les archives judiciaires, alors qu'il y a beaucoup de meurtres, hein, il y a beaucoup de meurtres et d'assassinats qui sont traduits en justice. Hein. Eh bien, on en a très peu qui concernent les mondes du crime avant la toute fin du 19e siècle. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé une affaire très intéressante à la fin des années 1860, dans les milieux des émigrés italiens qui vivent dans le quartier réservé, justement, et autour de ce quartier Saint-Jean, où un individu qui a des activités diverses, et notamment des activités de contrebande, parce qu'il a été démasqué par la police, accepte de se faire indicateur. Et il dénonce visiblement une bande de voleurs redoutables, notamment certains qui sont des évadés des bagnes italiens et qui ont profité de ce courant pour se mettre au vert à Marseille, mais qui continuent des activités, pour certains des activités répréhensibles, d'autres non, hein, d'autres travaillent, sont partis travailler, ont essayé de sortir de ce milieu de la délinquance. Parce qu'on a un témoignage très, très beau, très intéressant d'un des complice des voleurs, alors complice ou dénonciateur, hein, mais qui est quelqu'un qui accepte de parler à la police et qui dit, mais moi, je suis venu à Marseille pour sortir de ce milieu, pour refaire ma vie et travailler, mais on est venu me rechercher, on m'a dit, ah toi, tu ne connaissais pas un tel, et puis ce un tel est venu le rechercher, etc. Il a eu du mal, en fait, à réellement vivre, enfin, à ne pas retomber comme ça dans ces mauvaises, on va dire, fréquentations. Et lorsque cet indicateur dénonce, il a le défaut d'avoir par forfanterie un peu, il dit, ben voilà, moi je peux faire arrêter tout le monde, moi j'ai du pouvoir, etc. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, hein, parce que dans le dossier de police, enfin dans le dossier judiciaire,
Pas indiqué.
tout n'est pas dit, quoi. Est-ce que lui-même il avait été menacé, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, on le retrouve assassiné à coups de couteau. Très, très, très durement, en fait, hein, le corps lardé de coups de couteau, dans une position qui, d'après certaines femmes qui ont vu le corps, disent c'est une position de contrition, c'est parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on frappe les traîtres. Hein, et donc, visiblement, en représailles. Et au fond, c'est un peu un artefact dans le sens où, dans les années qui suivent, on ne voit pas tellement de problématiques de ce type, enfin, de morts de ce type. Parfois, quelques règlements de compte entre voleurs parce qu'il y a un butin mal partagé, des soupçons et tout. Mais par contre, on voit très bien que, à partir de la fin des années 1890 et surtout dans le centre de la ville et dans le quartier réservé, il y a des violences. Et il y a des violences dans le milieu des souteneurs. Et donc, peut-être que les formes de violence un peu débridées qu'on trouve aujourd'hui dans ce milieu de la drogue, moi j'ai l'impression de les avoir trouvées dans le milieu des bandes marseillaises qui se concurrençaient autour du marché de la prostitution et du marché aussi des tripots dans le centre de la ville, avec une absence de retenue qui étonne complètement quand même aujourd'hui, enfin qui, vous voyez ce qu'on a vu récemment avec cette affaire de Rennes avec ce petit garçon, je crois, de 5 ans qui était dans la voiture de son père, qui était soupçonné de participer, d'être mêlé à des affaires de trafic de drogue. Et c'est lui qui a été touché et qui est entre la vie et la mort. Ou bien ce jeune à Poitiers qui a été victime collatérale d'un tir d'un homme dont on dit aujourd'hui en tout cas qu'il essayait, parce que l'enquête est en cours, hein, qu'il essayait de s'implanter à Poitiers. Eh bien, moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça à Marseille dans les années 1900 avec des nervis, donc des jeunes qu'on appelait des nervis, qui se battent à coups de revolver dans les quartiers de l'arrière de la mairie, donc ce qu'on appelle ces fameux quartiers réservés, hein, qui ont été détruits, hein, dynamités, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou bien dans d'autres rues. Et par exemple, il y a une affaire qui est très, très médiatique, qui se passe plutôt dans le quartier Belzunce, où un jeune homme qui est convaincu qu'un homme qui est interprète auprès de la police l'a dénoncé, eh bien ce jeune homme l'attend dans la rue avec avec un autre de ses camarades, et puis l'autre fait le guet, et une fois que cet homme passe dans la rue, il lui tire dessus à coups de revolver, mais on est dans une rue passante, en pleine journée. Par ses coups de revolver, oui, hein, il tue ce pauvre individu, enfin ce pauvre interprète, mais il tue aussi un commerçant qui était sur le pas de sa porte. Et ça crée évidemment une émotion pas possible. Et c'est pas la seule affaire, hein. Il y a aussi une mère de famille qui passait dans une rue pareille quelques années plus tôt et qui est assassinée parce que c'est une victime collatérale, avec l'impression donc de tir mal maîtrisé dont on se demande si c'est un manque de professionnalisme. Je ne suis pas en train de dire que moi je ne pense pas du tout qu'il faut parler comme les gens qui disent qu'ils se tuent entre eux, c'est très bien, ça nettoiera le terrain. Ça, je crois que c'est un discours qu'il faut déconstruire aussi, hein. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est un manque de professionnalisme, de manquer la cible et d'atteindre entre guillemets, victimes innocentes. Ça ne peut pas le dire autrement, hein, quand c'est un enfant qui est touché. Ou si c'est un manque complet d'attention ou de morale, quoi. Ça, je ne sais pas ce qu'on peut dire de ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très, très choquant. Et qu'à Marseille, ça a eu des conséquences très importantes, hein, parce que derrière, donc on a étatisé la police, hein, on l'a mise entre les mains du préfet, on a augmenté sérieusement ses moyens pour essayer de rétablir l'ordre.
Moi, j'ai le sentiment que dans les années 50, 1950, 1960, le milieu n'avait pas envie d'étaler les règlements de compte. J'ai souvent entendu parler de personnes dont on avait mis les pieds dans un seau de ciment et jeté au Frioul. Et tout cela se passait dans la plus grande des discrétions. Mais parce que les membres de ces activités n'avaient pas envie que la police vienne tourner autour de leurs établissements et mette le nez dans leurs affaires. Et ce que vous racontez, c'est tout à fait le contraire. C'est que plein de maladresses ou pas, mais en tous les cas, ces activités sont extrêmement médiatisées. Et ça me permet de raccrocher à ce que vous avez écrit. Tout s'est passé comme si depuis une dizaine d'années, le gouvernement français et les grands médias parisiens avaient installé une sorte d'alerte permanente concernant tout ce qui touche au thème de la sécurité. Marseille, la ville devenant un support principal des mises en scène de la mobilisation politique sur le thème de la sécurité. Et vous poursuivez, entre 2009 et 2013, Marseille s'est classée 4 fois sur 5 au rang de la ville la plus couverte par les journaux télévisés nationaux, avec 40% des sujets consacrés portant sur l'insécurité.
Oui, tout à fait. Alors là, vous faites référence à des travaux que j'ai lus, mais c'est pas moi qui les ai écrits. Donc je voudrais juste rendre à leur auteur ce texte. Il faut encore que je retrouve. C'est un sociologue qui a écrit ça et qui s'est intéressé à ce travail en particulier. Alors est-ce que je vais retrouver? Je pense que c'est Kevin Vacher, le sociologue Kevin
D'accord.
Vacher, qui a écrit qui a travaillé là-dessus. Et Laurent Michéli aussi a travaillé sur le Marseille bashing dans les années 2010. Hein. Et effectivement, il y avait cette focalisation médiatique sur Marseille. Alors, à un moment donné, c'est toujours pareil. Je trouve que quand il y a une focalisation médiatique qui émerge, on se rend compte de sa nouveauté. Et je me souviens très bien qu'à la fin des années 2000, parce que quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, je vais pas dire qu'on n'en parlait pas beaucoup, mais il y avait tout un courant éditorial qui s'intéressait à ces questions et à l'histoire du milieu marseillais. Ça, c'est vrai, l'histoire du milieu marseillais, il y avait vraiment, je dirais, une dynamique éditoriale. Mais à la fin des années 2000, d'un seul coup, c'est vraiment la sphère des journaux, quoi, des médias en général, qui s'est mis à se tourner vers Marseille. Et il y a eu toute cette épidémie, entre guillemets, de règlement de compte. Alors qu'au fond, peut-être que dans les 10 années précédentes, il me semble qu'il n'y avait pas autant de médiatisation de ces sujets. On s'intéressait plutôt à la figure du dernier parrain. Il y avait toujours un dernier parrain qui ressortait. Il y avait eu tout ce qu'on avait pu dire autour de Jacky Le Mat, par exemple. Hein. Et là, il y avait de nouveau une actualité avec une séquence qui avait été très très dense parce qu'il y avait aussi toutes les affaires qui étaient sorties sur les soupçons de corruption locale. C'était au Conseil général, c'est ça?
C'est ça.
Si je
Oui.
comprends, mais voilà, au Conseil général. Donc il y avait une densité très forte d'actu. Et c'était comme si, effectivement, à chaque fois qu'il y avait un règlement de compte à Marseille, eh bien, il était dans les journaux, ce règlement de compte. Et c'était, ça questionne toujours, parce qu'au fond, on se demande toujours si les médias jouent pas un effet de loupe, et on se demande toujours ce que ça signifie. Et puis d'autre part, ça questionne bien sûr sur la place de Marseille dans l'espace national et sur l'économie peut-être politique, alors économie au sens la pondération de l'intérêt du pouvoir central pour. Certaines villes régionales, certaines villes on peut dire de la province, quoi, dans notre pays fort centralisé. Et Marseille a une place à part, hein. Marseille, cette grande ville populaire, avec effectivement, il faut le dire, hein, quand même beaucoup de trafic, de la violence. Mais le fait qu'on puisse instrumentaliser ça à des fins politiques, en fait, hein. Ça peut très bien être fait. Et c'est fait d'ailleurs assez régulièrement, et c'est aussi ce que les collègues sociologues ont voulu montrer, avec parfois aussi la volonté de montrer qu'on avait tendance à surestimer la violence locale, et à montrer aussi pourquoi, parce que c'est pas seulement une question de surestimation, de dire c'est faux, il n'y a pas cette violence. Plutôt dire Quelle est la conséquence de cette focalisation pour les populations locales, pour les populations des quartiers nord en particulier, des quartiers populaires? Et est-ce que la façon dont c'est fait, ça débouche sur vraiment une amélioration de vie pour les populations ou pas? Hein, je sais que par exemple, il y a des sociologues qui contestent, hein, bon, ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, je pense, ils diffusent leurs travaux, mais qui contestent les opérations place nette. Hein, en disant, au fond, elles peuvent avoir pour conséquence d'accroître la violence derrière ou de déplacer des points de deal, mais sans vraiment les faire disparaître.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, l'intérêt, c'est aussi ça, c'est de dire à quoi ça sert finalement de focaliser sur Marseille. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans mon livre, c'est de dire, mais depuis quand on focalise sur Marseille pour des questions de criminalité?
En fait, de très nombreux livres ont été écrits sur Marseille. Des romans, des polars, des livres d'histoire, de sociologie, d'anthropologie. Alexandre Dumas et Albert Londres ont séjourné à Marseille. François Mysen a enquêté. François Mysen avait reçu le prix Albert Londres. C'est un journaliste qui lui a enquêté sur la French Connection. Et il a écrit un livre Marseille Connection. Mais vous connaissez certainement le livre de Nicolas Mezzetti et César Amatina, on en a parlé tout à l'heure, Maudire la ville,
Oui.
qui est. Est-ce que Marseille mérite de faire autant peur?
Alors, moi je dirais que non, parce que je pense qu'aucune ville mérite de devenir un épouvantail, et comme aucun pays mérite de devenir un épouvantail, comme par exemple, vous voyez, ces jours derniers est sorti dans les médias ce mot de mexicanisation. Moi, j'ai une pensée pour nos amis mexicains, en fait, parce que tous nos amis mexicains ne sont pas membres d'un cartel de la drogue. Et il y a des Mexicains que je connais, des Mexicains, des Mexicaines qui habitent en France, certains qui habitent à Poitiers, qui se sentent vraiment stigmatisés, en fait, qui sont heurtés par l'emploi de cette expression, parce que ils ne se sentent pas représentés par cette expression. Et je pense que faire de Marseille, de l'extérieur de Marseille, une ville du crime, une ville des bas-fonds, non, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté par la grande majorité de la population marseillaise, même s'il y a toujours en fait des formes, et ça c'est toujours étonnant dans les comportements collectifs, hein, il y a toujours des formes de récupération. Et donc les récupérations, après, elles jouent à des niveaux méta multiples qui brouillent complètement après la compréhension du phénomène, hein. Dans mon introduction, c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de citer la chanson En bande organisée. Parce que cette chanson En bande organisée, ça a été un succès incroyable. Parce que si vous regardez sur n'importe quelle plateforme de vente en ligne l'expression C'est Marseille bébé qui est dans cette chanson, ça a généré je ne sais combien de produits. C'est pas vraiment du merchandising, mais en fait, c'est du produit sous toute forme de support avec ce slogan, qui est devenu une sorte de slogan. Et c'est un slogan qui n'est pas dévalorisant pour moi, pour Marseille. C'est Marseille bébé. Derrière, il y a toute cette fierté locale d'être Marseillais, etc. Mais cette chanson, quand on regarde les paroles de près, c'est une chanson sur la drogue, en fait, sur le trafic. Et c'est une chanson qui. Alors qui est très, pour moi, assez viriliste, on gonfle les mécaniques et on va dire, moi, j'ai pas peur de la bande d'en face qui me cherche des noises. Il y a un peu ça dans cette chanson, entre autres. Il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi ça. Et donc, on voit la récupération dans une sorte de lien comme ça entre le Marseille populaire, le Marseille fier à bras, le Marseille des trafics, parce que quand même, ce Marseille des trafics, bah, il y a une forme de fascination répulsive, hein, pour ces trafiquants. Même si c'est pas ça, hein, qui est mis en avant, on est d'accord, hein, dans la sphère médiatique, politique, etc., parce qu'on peut pas, on va pas tous se mettre à, on peut pas aduler comme ça ces figures, mais il y a une forme d'héroïsation un peu paradoxale de ces acteurs criminels enrichis par des trafics, hein, parce que derrière il y a aussi cette réussite quand même de l'argent, hein, cette sorte de, on va dire. pas de sacralisation, mais d'envie un peu aussi, hein, je pense, dans les milieux où on se serre la ceinture, hein, de se dire, maintenant on se serre la ceinture, on est courageux, on est honnête, et quelque part, ça a toujours un peu existé au fond depuis très longtemps, hein, depuis le mythe de Robin des Bois, bien que Robin des Bois, lui, c'était pas pareil, hein, il volait aux riches pour redonner aux pauvres, alors que ça, ce sont des gens qui volent aux riches pour s'acheter des belles voitures, hein, en gros, hein, donc c'est vraiment très très individualiste, hein, mais vous voyez, il y a quelque chose de vraiment très très complexe derrière tout ça, moi je trouve. Et donc, ça complique vachement parce que, bah, évidemment, ça prête un peu le flanc à la critique pour Marseille. Hein, ça contribue un peu à inscrire l'image de Marseille comme une ville du crime et des trafics. Mais en même temps, cette image du crime et des trafics, elle est aussi très, très mauvaise pour la ville, en fait. C'est aussi une mauvaise image quand même. Parce que derrière, il y a tout un ensemble de représentations qui sont comme les supports de cette image. Et ces représentations, elles sont pas, elles sont sombres en fait, parce que il y a l'idée de l'immoralité. Donc il y a l'immoralité, c'est l'immoralité de qui en fait? C'est l'immoralité des pauvres, c'est l'immoralité des étrangers, c'est l'immoralité des méridionaux, parce qu'au sud, on n'a pas beaucoup de morale, on est un peu souple. Il y a ça derrière aussi, hein.
Malgré cette image négative de Marseille, de plus en plus de personnes séduites par la carte postale, le soleil, la mer,
Oui.
viennent s'installer à Marseille
Oui.
ou achètent un logement. Alors, comment vous expliquer, face à cette image négative qui est extrêmement propulsée par les médias, comment vous expliquer qu'autant de personnes aient cet engouement pour Marseille?
Ah ben, c'est très rassurant, ça montre que cette image négative n'est pas la seule, en fait.
Alors, bon, il y a quand même le revers de la médaille. Il y a une bonne partie des personnes qui viennent attirées par la médaille qui repartent 6 mois après.
Ah, il y a aussi ça.
Parce qu'on dit de Marseille que Marseille ouvre ses bras, mais n'ouvre pas son cœur. C'est-à-dire qu'à Marseille, le contact est facile,
Le
mais
premier
pour rentrer dans
contact.
l'intimité marseillaise, ça prend beaucoup de temps.
Oui, ça c'est très possible. C'est très possible et c'est vrai que les gens, alors beaucoup de gens que, là je parle plus à titre de Marseillaise moi-même, qui ai eu des discussions à ce sujet avec des non-Marseillais, des non-Marseillaises, hein. Il y a vraiment cette impression que les gens du Sud donneraient au fond parce qu'ils sont expansifs, parce qu'ils parlent beaucoup, parce que ils sont dans cette forme de sociabilité bruyante, mais qui est un peu superficielle en fait pour les gens du Nord. Alors, les gens du Nord sont surpris souvent quand ils viennent chez nous. Alors, on est un peu dans des stéréotypes régionaux. J'aime pas forcément faire ça, mais il peut y avoir, je pense, comment dire? Il peut y avoir, je pense, aussi cette déception parce que il y a effectivement un stéréotype d'un accueil qui serait un accueil total, mais qui est comme partout, c'est-à-dire dans n'importe quelle ville où vous allez quand vous n'êtes pas originaire de cette ville, eh bien au fond vous avez du mal à vous y insérer vraiment de manière pointu, de manière vraiment intime, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un monde qui est déjà là, avec des gens qui sont en réseau, qui se connaissent, qui n'ont pas forcément besoin de s'ouvrir à d'autres personnes. Et ça, on peut le voir un peu partout. Comment, quand on s'insère dans une ville, on va souvent s'insérer auprès de personnes qui, elles-mêmes, sont des pièces rapportées et créer, comme ça, d'autres groupes un petit peu, à la fois dedans et à la fois un peu dehors. Mais pour aller aussi sur l'image actuelle, hein, de Marseille, bon, qui n'est pas non plus ma spécialité dans le sens où moi j'ai pas travaillé sur cette image comme si, enfin j'ai pas fait une recherche scientifique sur cette image, mais on voit très bien qu'aujourd'hui l'image de Marseille elle est diffractée dans de multiples, on va dire, registres. Il y a toujours cette image positive et un peu caricaturale qu'on va retrouver, qui peut-être, moi en tant qu'historienne, va me faire penser à ce qui est né entre le Second Empire, les années 1850-60, et puis les années 20-30, qui est cette image du folklore marseillais, en fait, hein, avec ces caricatures de Marseillais. Qu'on va retrouver, réutiliser beaucoup par Pagnol, parce que c'est lui qui, au fond, et puis c'est vraiment dans ces années 20-30 que tout ça s'est popularisé grâce à la diffusion du cinéma, hein. L'image du cinéma a beaucoup joué, avec Fernandel aussi qui représentait une autre figure de méridionale. Et donc, il y a quand même toute cette carte postale de la ville, qui marque encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est une ville qui a ces deux facettes. Il y a aussi beaucoup le cadre naturel qui joue, et ça, on le trouve même dans les récits de voyage des années 1820-1830, ces derniers récits de voyage qu'on peut trouver de ce genre littéraire-là, où les écrivains romantiques parisiens qui viennent à Marseille, alors ils viennent pas spécialement à Marseille pour venir à Marseille, souvent ils y font escale avant de faire un tour en Méditerranée, hein, faire un voyage en Orient, comme on disait. Et ils sont frappés en fait par l'étrangeté de la ville, par l'aridité des paysages, par ces populations locales qui parlent encore un idiome local. Donc on est presque en terre étrangère en fait. Et en même temps, ils aiment beaucoup cet environnement exotique, c'est une forme d'exotisme intérieur. Et aujourd'hui, moi, ça m'a amusé de voir que récemment, dans le métro parisien, il y avait des grandes publicités pour dire venez à Marseille, mais c'était un peu venez à Marseille vous mettre au vert, et enfin au vert façon de parler. Et c'était une publicité où on voyait la mer et puis quelqu'un qui faisait du vélo, et on voyait pas la ville en fait. C'était les Calanques. Effectivement, moi, je connais des gens venus à Marseille pour un grand événement sportif l'année dernière et qui m'ont dit non, on n'est pas allé à Marseille parce qu'en fait, ils ont loué un Airbnb à Cassis et puis ils sont restés dans les Calanques, donc dans cet à côté de Marseille. Aussi parce que c'est vrai, Marseille, c'est une ville qui est un peu explosive, qui a en tout cas cette image de ville qui est potentiellement dangereuse. Et donc, on peut hésiter à venir. Parce que on peut avoir aussi un peu peur de la ville. Je pense que c'est possible.
Je parlais d'événements sportifs, j'étais tout proche du stade Vélodrome au moment de la Coupe du Monde de rugby, et j'ai croisé plein de spectateurs venant
Oui.
d'origines complètement différentes. Et c'était génial de les voir marcher comme ça, déambuler sur l'avenue du Prado. Et puis s'attabler sur les tables. Mais moi, je n'ai pas observé la moindre embrouille, enfin le moindre incident entre les personnes. Alors qu'à un moment, la bière avait largement coulé et fait quelques effets. Mais moi, il n'y a eu aucun incident, il n'y a pas eu de bagarre.
Non,
Donc, c'est cette image qui me convient pas de Marseille, Marseille brutale, Marseille
oui.
insécure. Alors, brutale, oui, parce que il y a des populations qui se bousculent, qui se rencontrent, mais il y a pas. Enfin, moi, je ne crois pas que Marseille soit plus insécure que Paris. Ou que Saint-Denis, en région parisienne,
Ouais.
ou que Lyon.
Ce qu'avait dit. Alors oui, effectivement, oui. Ouais. En plus, moi, ce qui me frappe actuellement, bon, là encore, on sort du cadre de ma recherche, mais c'est que actuellement, quand il y a des heurts politiques, par exemple, avec l'extrême droite ou des violences, c'est, me semble-t-il, c'est pas Marseille, hein, qui est au cœur des médias, hein. C'est pas de Marseille qu'on parle, hein. C'est plutôt de Lyon, plutôt d'autres villes, en fait, hein. Et alors, je pense que en termes d'insécurité, il faut voir ce que le futur réserve. Et là, on peut difficilement, on peut pas prévoir l'avenir. On peut pas du tout. Mais moi, je suis assez étonnée actuellement, vivant dans l'Ouest de la France, de voir qu'il y a une forme de médiatisation de la dangerosité à Nantes. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous frappe, mais si aujourd'hui on va voir sur les moteurs de recherche, il y a pas mal de discours négatifs aussi sur cette ville. Et donc, ça montre aussi que quand même, c'est pas qu'une histoire de réel, quoi. C'est aussi une histoire, je pense, à certains moments de focalisation sur certaines villes. Et puis, il y a un certain nombre d'articles qui paraissent, d'autres paraissent ensuite. Et peut-être qu'effectivement, il y a des violences à certains moments dans des villes plus qu'à certains moments dans d'autres. Sur Marseille, ce qui est frappant et ce que Laurent Micheli avait bien plusieurs fois montré dans ses articles sur la ville ou dans ses livres, c'est le fait que les banlieues sont dans la ville, que le territoire communal fait que c'est une grande ville populaire dans son périmètre, et qu'on ne peut pas du tout comparer Paris et Marseille en termes d'insécurité si on ne tient pas compte de cette particularité du territoire marseillais. Parce que ensuite, lui, il avait montré en comparant donc les chiffres de je dirais de la criminalité, de la violence à Marseille et à Paris, et en prenant la couronne et notamment justement Saint-Denis, il avait montré qu'au fond, Marseille n'était pas beaucoup plus criminelle que ça. Et donc,
Parfois moins.
comment?
Parfois moins.
Parfois moins. Et donc, on voit bien comment le territoire, la façon dont le territoire s'est construit sur le plan même légal, hein, finalement, de cette commune, fait que ça, c'est une réputation qui jaillit sur la ville. Et donc, ça nous interroge évidemment sur la façon dont on utilise des noms de ville pour fabriquer des épouvantails ou des espaces à investir pour rappeler la présence de l'État, la puissance de l'État, le fait que l'État est présent pour répondre aux problèmes des concitoyens.
Les trafics de marchandises et Marseille, les plus anciennes traces connues de la route de la soie et de la route des épices remontent au moins à 2000 ans avant notre ère. Au 19e siècle, les bateaux chargés de marchandises débarquent à Marseille pour approvisionner les huileries, les savonneries, les industries qui sont très florissantes à cette époque. À quel moment, à quelle époque où situer les premiers trafics de drogue et plus précisément les premiers trafics de drogue à Marseille. Alors, peut-être que vous allez parler des trafics d'opium qui sont peut-être bien avant, mais je ne sais pas ce que vous allez nous répondre.
Ben, la question, en fait, ben, comme toujours, quand nous, chercheurs universitaires et tout, on travaille sur ces sujets, elle est toujours compliquée dans le sens où trafiquer de l'opium, enfin trafiquer, faire du commerce d'opium,
Transporter.
voilà, transporter de l'opium, ça remonte avant le 19e siècle en fait. Et là, je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément, mais au moins à l'époque moderne, c'est sûr, dès qu'il y a eu des grandes circulations internationales, une première mondialisation, on a commencé voilà, il y a déjà eu du transport de l'opium à des fins médicales, hein, thérapeutiques en fait. Mais pendant longtemps, c'était tellement limité à des milieux restreints que finalement, on s'en préoccupait. Il y avait, hein, au 19e siècle, il y a eu une législation qui a été renforcée sur les substances psychotropes, on ne les appelait pas comme ça, mais en gros, c'était une législation qui mettait ensemble les poisons. Parce qu'il y avait des affaires d'empoisonnement et tout ça, et donc il y avait des poisons, des substances dont le commerce était très contrôlé, hein, et donc sur les poisons et sur les substances psychotropes. Et en fait, on commence à s'inquiéter en France dans les années 1900 de ce qui apparaît, de ce qu'on commence à percevoir comme une augmentation de la circulation de l'opium et de la consommation, en particulier dans des villes où il y a beaucoup de marins qui ont voyagé en Extrême-Orient, ou bien des militaires. Parce que ce qui inquiète, c'est la démoralisation des soldats. Et typiquement, à Marseille, enfin, la démoralisation, ou bien on va dire l'annihilation de la vigueur, de la vitalité des soldats. Parce que quand vous fumez beaucoup d'opium, ensuite, bah, vous n'êtes pas très, on va dire, dynamique s'il faut aller se battre. Et donc, on s'en est beaucoup inquiété sous la Troisième République, où on voulait renforcer l'armée, en vue d'une éventuelle nouvelle confrontation et en vue de la piteuse confrontation dans la guerre franco-prussienne qui a fait tomber le Second Empire en 1870. Et dans les années 1900, on s'en inquiète, et à Marseille, on voit bien qu'on s'en inquiète parce que comme il y a beaucoup plus de comment dire, de volonté de contrôler en fait les fumeries d'opium dont le lieu initial d'installation dans le sud, c'est Toulon, à cause du port militaire, eh bien, il y a des fumeries qui viennent s'installer à Marseille. Parce que pour les coloniaux, pour les personnes qui ont travaillé en Extrême-Orient, qui ont fréquenté des fumeries et qui sont revenues et qui voudraient en fréquenter dans la région, Toulon devient un lieu trop contrôlé par la police. Si la police fait trop de descentes dans les fumeries, bah, c'est un peu comme aujourd'hui, quand la police va trop descendre sur un lieu de deal, bah, c'est plus intéressant de le déplacer. Et donc, les fumeries se déplacent pour partie à Marseille. Et À la fin des années 1900, il y a des papiers très intéressants dans les archives locales, hein, non, nationales, pardon, qui sont des papiers d'un inspecteur de la police mobile qui a été envoyé comment dire, en infiltration dans le milieu des fumeurs, pour essayer de repérer qui trafique, qui amène de l'opium. Et donc, on voit que là, il y a quelque chose qui prend. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que jusqu'aux années 1920, et ça, c'est pas seulement à Marseille, c'est un peu partout, il n'y a pas de régulation internationale très stricte des circulations de ces substances. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont un peu dans les milieux de la pharmacie, vous voyez, ou des gens qui sont des navigateurs qui peuvent assez facilement transporter ces substances parce que il n'y a pas de consensus entre les différents États européens pour réguler ou pour contrôler véritablement ce commerce. Et dans les années 20, c'est la Société des Nations qui s'en préoccupe et qui commence à penser à une politique de quotas pour dire bah, dans tel pays doit pas rentrer plus de substances, etc. Et dès qu'on fait ça, en fait, on verrouille vachement le marché. Et c'est à partir de là que des bandes de trafiquants, mais qui sont complètement dans l'illégalité, puisqu'ils ne sont pas dans ce marché-là, hein, et qui vont en tout cas prendre en main un marché illégal qui répond à la demande, à la demande des consommateurs, en fait, hein. Et donc c'est dans ce domaine-là, manifestement, c'est à ce moment-là, manifestement, que quelqu'un comme Paul Carbone, hein, qui est assez connu, de nous, Marseillais, en tout cas, ou des personnes qui s'intéressent à cette histoire du milieu, il est réputé pour avoir, comment dire, être intervenu pour structurer un marché en Méditerranée, notamment en Méditerranée orientale, dans les relations avec la Turquie. Hein, avec la Turquie, par exemple. Donc, c'est à partir de là vraiment que que se situent les prémices de ce qu'on appellera ensuite la French Connection ou la Corsican Connection, hein, certains ont pu dire. Et là, le grand spécialiste de ces sujets, c'est aussi Alexandre Marchand, hein, qui a beaucoup travaillé, voilà, sur le thème de cette histoire du trafic de drogue au XXe siècle.
Alors ça nous amène à la partie suivante de votre livre, qui est les marges illégales et immorales de l'économie marchande marseillaise.
Oui, alors pourquoi j'ai parlé de ça, marge illégale et immorale? Parce que quand j'ai commencé à travailler sur cette question, évidemment, on avait tous en tête cette image du milieu marseillais du XXe siècle, surtout la grande période des années 50-60. En plus, il y avait tous ces films, les films de Melville, puis French Connection et tout. Et donc, je m'étais dit, je vais discuter en plus avec des spécialistes de l'histoire de la criminalité. Comme par exemple Jean-Claude Farcy, hein, qui était un grand spécialiste en France de ces questions pour le 19e. C'était pas le seul, mais voilà, lui, il avait beaucoup compté dans les débuts de mes recherches. Et il m'avait dit, bah, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur le banditisme sous l'Ancien Régime. Alors, on pense à Cartouche, à Mondrain, on voit un peu ça. Mais pour le 19e et le 20e siècle, bah, pas tellement. Et puis après, il y a tous ces livres qui ont été écrits sur d'histoire du milieu, mais qui sont pas écrits souvent avec des critères scientifiques, comme par exemple des notes de bas de page et des archives. Je pense, beaucoup des témoignages, en fait, hein, qui avaient dû jouer des histoires qu'on se racontait de l'oralité. Et donc, comment on peut faire pour travailler sur ces sujets? Et surtout, qu'est-ce qui se passe au 19e, à partir de quand on voit justement apparaître des trafics de drogue, des trafics de prostitution, enfin un peu ces gros secteurs d'activité du crime organisé du 20e siècle. Et donc, je suis allée voir ce qui se passait au 19e. Et là, ce qui m'a frappé, ça a été la difficulté à isoler des secteurs d'activité du crime organisé. Parce que je me disais, mais est-ce que vraiment ça n'existe pas? Et si ça existe à quel titre, à quel niveau? Et d'autre part, comment on peut arriver à les déterminer? C'est-à-dire, est-ce que je dois dire, au XXe siècle, c'est la drogue et la prostitution, donc rétrospectivement, je vais aller travailler sur la drogue et la prostitution au XIXe? Ou pas. Et je me suis dit, bah non, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est comment, dans une société, à un moment donné, on décide de ce qui est illégal ou pas. Vous voyez? Et typiquement, le fait d'être un souteneur, le fait de tirer profit de la prostitution d'une femme, eh bien, et surtout de tirer profit de la prostitution d'une femme qui se prostitue dans la rue et des hôtels de passe et non pas dans les maisons de tolérance parce que ça, on n'y touche pas, c'est le secteur réglementé. Bon, ben ça n'est pénalisé que au milieu des années 1880. Avant ça, ça n'est pas pénalisé. Est-ce que pour autant c'est immoral ou moral? Est-ce que c'est toléré ou pas? Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est au fond, quand on commence à se dire ça, on peut se dire après, mais il y a essayer de voir comment s'articulent la morale et la loi. Par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, bah, il faut légaliser le cannabis, en fait. Il faut le légaliser parce que s'il y a autant de violence, c'est peut-être parce qu'il est illégal et que les marchés illégaux, ils ne se structurent pas avec des institutions et avec une morale qui est celle et qui est dans le cadre de la loi. C'est pour ça qu'il y a des règlements de compte. Alors, ça n'a pas réglé tous les problèmes parce qu'il n'y a pas que le haschich, en fait. Il n'y a pas que le cannabis. On va pas légaliser la cocaïne, on va pas légaliser l'héroïne, etc. On peut pas, en fait. C'est pas possible de... ça crée trop d'autres types de problèmes, j'ai envie de dire. Mais effectivement que la loi est pas toujours en accord avec la morale. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est de voir que par exemple au 19e, à Marseille, il y a pas mal de contrebande. De contrebande de cigarettes, par exemple, de contrebande d'alcool. Et très souvent, les populations, ce qu'on voit dans les archives judiciaires, en fait, les classes populaires, elles sont très hostiles aux voleurs. Le voleur, c'est vraiment l'individu avec lequel il ne faut pas frayer et qui, donc ça veut dire qu'elles sont attachées à la valeur de la propriété. Hein? Donc, et les bandes organisées du 19e, ce sont des bandes de voleurs, ce sont des gens qui sont très... du coup, qui cachent leur activité. Je me suis dit, il faut souvent que ce sont des individus qui vont cacher leur activité, qui sont aussi dans le crime organisé. Parce que même Carbone et Spirito, ils vont pas dire en face des médias, je suis trafiquant de drogue et je l'assume. Hein. Bon. Et donc, ce sont des activités qui sont cachées, donc on peut soupçonner, mais voilà, on sait pas trop. Mais inversement, il est possible de se dire contrebandier. Et il y a des voleurs qui disent, qui arrivent par exemple, qui sont poursuivis par un policier qui crie au voleur. Là, il y a des passants qui arrêtent l'individu qui court parce que si c'est un voleur, il faut le remettre à la police. Et en l'arrêtant, l'individu dit, je ne suis pas voleur, je suis contrebandier. Et là, il est relâché. Voilà. Donc, on voit bien les écarts entre la morale et la loi. Et en fonction des catégories sociales aussi, peut-être. Mais pas forcément, hein, parce que sur la question de la contrebande d'alcool, je pense qu'au début du 19e, il y a quand même une sorte de consensus que ces taxes sur l'alcool, ça ne devrait pas exister.
Oui, puis quelques-uns achètent volontiers au cul du camion.
Oui.
Grosse Montaigne, nous arrivons à la fin de cet échange qui est absolument savoureux. Je rappelle le titre de votre ville, de votre livre, pardon, Marseille, capitale du crime, histoire croisée de la criminalité organisée et de l'imaginaire de Marseille, qui a été publié chez Champvallon au mois d'août 2024. Merci beaucoup, Laurence Montel.
Eh bien, je vous remercie.
Thank you.